Vous écoutez
RMC.
Fallait pas avoir du plomb pour la carrière.
Le Mosca.
L'info du jour en rugby, c'est une info RMC Sport. Ils vont être nombreux à être soulagés. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire heureux, mais au moins soulagés. C'est la vente du Biarritz Olympique pour 1 euro. Louis-Vincent Gave a cédé le club à un trio d'anciens joueurs. Paul Lafitte, bonjour.
Salut Pierrot, salut Paul.
Et bonjour à toutes. Parmi ces anciens joueurs, il y a un ancien biarro, Sean Egarty, et associé à Egarty, Philippe Van der Merwe et Marc Baget.
Oui Pierrot, c'est une surprise car les derniers bruits de couloir faisaient état d'une reprise du club rouge et blanc par des investisseurs irlandais voire néo-zélandais, mais en aucun cas d'acteurs locaux comme Sean Egarty, Philippe Van der Merwe et à un degré moindre Marc Baget. Alors Sean Egarty, appelé à devenir le futur président du conseil de surveillance du BO, est un enfant du Biarritz Olympique, club avec lequel il lancera sa carrière au poste de trois quarts centre au tout début des années 2000, l'âge d'or bien sûr du rugby biarro, avec deux titres de champion de France à la clé en 2005 et 2006 aux côtés de Marc Baget, ancien troisième ligne reconverti dans le milieu des assurances, un pote au long cours d'Egarty qui intégrera lui aussi l'organigramme du Biarritz Olympique à un poste qui reste encore à définir. Le troisième personnage de ce triumvirat se nomme Philippe Van der Merwe, ancien deuxième ligne de Clermont avec 37 sélections en compteur sous le maillot des Springboks, un colosse de près de 2 mètres qui n'a jamais lui porté les couleurs d'un club au Pays Basque mais qui a installé son activité professionnelle à Biarritz avec deux entreprises, l'une spécialisée dans les conseils en data, l'autre dans la fabrication de vélos hydrogène, et c'est ce beau bébé âgé de 38 ans qui deviendra dans quelques semaines le nouveau président du directoire du Biarritz Olympique.
Alors quand même quelques précisions, évidemment c'est pas une très grosse entreprise, c'est pas un énorme mécène qui arrive, est-ce qu'on a une idée, juste une idée de l'ambition de ces trois-là, parce qu'on sait que le BO a un déficit structurel de à peu près 6 millions d'euros, c'est ça, énorme, oui. Annuel, et qu'il évolue en pro D2, donc faut quand même de l'argent hein.
Ouais, il faut de l'argent. Alors Pierrot, la question a été posée à Jean-Baptiste Aligier qui a tenu une conférence de presse dans les murs du stade Aguilera, c'était en tout début d'après-midi, et lorsque l'on a posé la question à Jean-Baptiste Aligier, il a botté en touche en déclarant seulement qu'il voulait que le BO termine cette saison, reste évidemment en pro D2, et que pour ce qui était des finances du club dans les mois et les années à venir, eh bien la question serait posée au futur patron donc du Biarritz Olympique. On évoque peut-être bien dans les couloirs d'Aguilera peut-être une enveloppe d'1,5 million d'euros pour aider le club a émergé, mais enfin on n'a pas plus d'infos à l'heure où on parle sur les différents budgets qui seront alloués au Biarritz Olympique pour les prochains mois.
Bon, c'est juste que le club est sauvé,
oui,
à court terme, mais en gros, Denis, c'est ça.
Oui, à court terme, mais je pense que
et tant mieux.
C'est déjà ça, hein.
Paul, il va falloir dégraisser sûrement, donc ça va être quand même
donc jouer le maintien. Ouais, et voilà, hein.
Ils ont commencé à le faire, Denis. Hein. Certains joueurs vont quitter le Biarritz Olympique, des joueurs à forte valeur marchande hein, ouais, vont quitter le club. Jean-Baptiste Aligier a œuvré en coulisses pour récupérer évidemment pas mal d'euros sur certains très très bons joueurs, car il faut quand même le rappeler, Pierrot, tu le soulignais, Biarritz c'est aujourd'hui 14e de Pro D2, mais sur le papier à l'une des plus séduisantes équipes du championnat, avec de très très bons joueurs qui quitteront l'entité basque, ce sera à la fin de cette saison au mois de juin prochain.
Je pense qu'ils vont alléger la masse salariale, non ?
Ouais, tout à fait.
Denis,
tu as la masse.
Non, mais c'est
un
soulagement.
Oui, c'est un mal pour un bien, mais après, savoir si t'as pas l'argent,
combien de descendants en Pro D2
Le dernier, puis après il y a un barrage comme en top 14.
Top 14, okay. C'est le même format. Après, si tu veux prendre le truc positif, ce club aurait pu mourir. Ce sont trois personnes qui aiment ce club. C'est pas des gens qui tombent de la lune, des investisseurs.
Il y en a un qui a joué à Bayonne. Il y en a qui, faut le dire.
Oui, non, mais bon, c'est des gens du coin qui aiment le club, qui vont se battre. Qui...
Non, mais Adrien, si t'as pas d'argent.
Et donc, leur mission,
demain,
du coup, Denis, là, tout commence.
Oui, 5 millions, 6 millions.
Leur mission, c'est de trouver des partenaires.
Non, mais j'espère qu'ils ont des solutions.
Tu sais la difficulté, c'est que tous les gros partenaires de la région, ils sont
à Bayonne.
Sont à l'aviron bayonnais. Donc là, il faut bosser. Là,
certains vont revenir.
Bien sûr.
Ils sont trois. Ils connaissent la boutique. Peut-être que les investisseurs ne voulaient pas venir parce que c'était
voilà,
pour
oui,
les anciens.
Évidemment.
Les anciens.
Évidemment.
Donc forcément,
ça, c'est une chance. Il faut le souhaiter.
C'est une chance.
Mais il faut dire encore une chose, messieurs, je vous coupe, c'est que les biarros sont aujourd'hui soulagés de savoir que Jean-Baptiste Aligier va quitter le bateau du Biarritz Olympique, même si la famille Gave était propriétaire du club. Et d'ailleurs, on peut penser que dans les prochaines semaines, certains supporters qui ne venaient plus au stade pour voir le BO en Pro D2 vont revenir. car ça va évidemment changer de gouvernance dans les prochaines semaines.
Et est-ce que la municipalité qui était en guerre avec Aldigé va pas justement aider les nouveaux repreneurs à trouver des investisseurs à,
on peut le penser.
Aussi, parce qu'ils s'étaient détournés du club.
La mairie, elle va pas faire apparaître les dollars.
Pas eux, mais ils ont des contacts quand même. Tu sais, une mairie, elle a des leviers quand même.
Pour caricaturer Paul, Biarritz, c'est une ville où il y a beaucoup d'anglo-saxons. C'est une station balnéaire connue. Il y a beaucoup de gens qui viennent même en vacances, qui ont beaucoup de moyens, des grands patrons. Tu peux les séduire aussi comme ça. Il y avait la piste anglo-saxonne.
Il y avait la piste sur Richard Paul Jones.
Paul, c'est le cas.
Biarritz fait rêver. Biarritz fait rêver. Et on peut penser que dans les prochaines semaines.
Ça fait rêver, mais un club de rugby aujourd'hui, ça fait, il n'y a pas d'économie. Donc,
et la bonne nouvelle de l'histoire,
que ça fasse rêver.
Le discours du coup maintenant ancien propriétaire, c'est que Bayern a pris tout le business.
Mais oui.
Après, c'est vrai à 100%. Quelle est la réalité de ça? Je ne sais pas, mais il est vrai que l'aviron s'est énormément développé économiquement.
On verra, mais tu peux peut-être créer un budget pour au moins jouer chaque année en Pro D2 sans souffrir comme il souffre cette année.
Et le BO n'est pas mort.
Et la bonne nouvelle aussi dans l'histoire, c'est que dans le championnat des dirigeants, ils vont avoir une belle équipe quand même. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes de top 14 qui ont des dirigeants aussi forts au rugby.
Messieurs, vous le savez très bien, ce sera difficile et pour le Biarritz Olympique. On souhaite le meilleur au niveau sportif pour le BO, mais à 5 km de son voisin, l'Aviron Bayonnais, on voit mal comment deux clubs professionnels pourraient se rendre en Pro D2, voire en top 14.
La fusion, c'est trop tard.
Merci, Paul. C'est beaucoup trop tard, Biron.
Merci, Paul. Merci beaucoup. Autre info importante du jour, c'est le forfait de Nadal qui a été acté hier soir. C'est le feuilleton de la semaine et on va faire le point avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut Eric.
On verra pas Nadal à Monte Carlo. Quelles explications a-t-il donné?
Alors c'est vrai que le forfait en lui-même apparaît brutal, mais Rafa n'est pas au fond de son lit, inactif. Il tape régulièrement dans son académie, mais d'après les informations qui remontent de Majorque, c'est une gêne au dos qui l'a incité à ne pas faire le voyage en principauté. Le niveau hyper relevé du Mastersville de Monte Carlo a dû aussi refroidir ses ardeurs. Imaginez les dégâts d'une vilaine défaite au premier tour face à Dimitrov ou Tsitsipas si le sort avait été coquin, car c'est une réalité, il n'est plus protégé désormais et ce sera pareil à Barcelone s'il y va. Maintenant, la solution la plus intelligente, ce serait peut-être de reprendre à un niveau moindre dans un challenger. Il y en a un sympa fin avril début mai du côté d'Aix-en-Provence. Je pense qu'Arnaud et moi nous écoute. Ne perdons pas de vue que l'objectif numéro un pour l'Espagnol, c'est d'être présentable entre guillemets à Roland et ce n'est que dans 50 jours. Moi, je suis intimement convaincu qu'il foulera le cours Philippe Châtrier.
Et intimement convaincu. Mais ça, c'est le fan qui parle.
C'est pas un truc incroyable de dire qu'il va fouler le cours Philippe Châtrier.
Moi aussi, ce soir, si je veux, je le foule.
Parce que dans les propos d'Eric, il dit il va s'inscrire, il va jouer le tournoi.
Aujourd'hui, on peut en douter.
Quand tu le vois, j'ai encore vu une vidéo, il tape là-bas, il a un mémodo, il peut pas servir.
Mais il devait être à Monte Carlo, donc à un moment.
Pierrot, il y a quand même une énorme différence entre s'entraîner à faire des gammes et ne pas pouvoir servir. Tu peux t'entraîner. Quand tu joues à Monte-Carlo, tu es obligé de servir un minimum de fois en servant à 180.
Donc c'est qu'il y a un souci.
Roland sera pareil à Roland.
Mais il va se soigner, le dos va être guéri. Par contre, la différence, c'est que se présenter sur le cours Châtrier ou être compétitif sur le cours Châtrier, il est là la grande différence.
Mais Nadal, il ne peut pas défendre ses choses.
S'il peut jouer au tennis, il viendra dire au revoir, Pierrot.
Mais non, mais Eric, il peut avoir le même raisonnement pour Roland. S'il se sent pas capable.
Je pense qu'il aura une last dance, voilà, tout simplement. Et ce sera un moment magique quand il va rentrer sur le Châtrier.
Mais Eric, tu penses qu'il peut se présenter à Roland-Garros en condition de se dire je ne peux pas gagner Roland-Garros?
Oui.
C'est le nouveau Nadal, ça.
Parce que là, le cas de conscience aujourd'hui, c'est j'arrête du jour au lendemain et c'est fini. J'ai pas fait au revoir. Et j'y vais pour dire au revoir, un peu comme Tsonga, puisque rappelez-vous comment c'était émouvant, Tsonga. On peut dire que Nadal, quand même, c'est un dieu, il y a un Roland Garros.
Merci Eric, on va passer à la Ligue 1.
Ne me remerciez pas, je reste là.
Avec le déplacement,
le mec qui croit que tout le monde parle de lui.
Le déplacement de Nice à Reims, après une nouvelle désillusion pour les Niçois, qui ont perdu à domicile contre Nantes. Les Niçois dégringolent avec une victoire seulement sur les 8 derniers matchs, 6 défaites dans cette série, et une ambiance dans le vestiaire détestable, Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Oui, salut à tous. Ouais, Nice est 16e de Ligue 1 en 2024, 16e de Ligue 1, et le Gym n'est plus du tout l'équipe solide et unie de la première partie de saison, et qui était donc deuxième à la trêve. Et Marcin Bulka, après la dernière défaite contre Nantes, l'a admis, il craint d'avoir de grands regrets en fin de saison.
On peut parler, on peut discuter, mais à la fin, il manque quelque chose, bien sûr, parce que c'est pas possible qu'on commence très bien la saison. La deuxième période de la saison, on fait les matchs comme ça, quelque chose qui va pas. Et il faut le régler, les problèmes tout de suite. Après, il va y avoir les regrets comme c'est là aujourd'hui. Pour moi, c'est inacceptable.
Et le gardien polonais a aussi ciblé des partenaires qui, selon lui, n'ont plus l'envie du début de saison. Et c'est une sortie qui a un peu surpris le capitaine Dante.
Oui, ça vous donne aussi des choses à écrire, surtout. Ça vous met beaucoup de choses dans vos têtes et ça, on n'a pas besoin de le faire publiquement. Mais c'est quelqu'un de très franc et que et le plus important, c'est que on a tous compris, on a pas mal prié, on s'est réunis et on est dans la bonne communication.
Et malgré ça, bon, Nice est cinquième. L'objectif annoncé, c'est le top 6. Mais vu la dynamique et l'atmosphère, ça peut sembler de plus en plus compromis.
Ouais, alors là, c'est alors, peut-être que Dante, on peut lui faire confiance, mais c'est aussi un discours de façade. Parce que moi, j'entends pas souvent un joueur de foot de Ligue 1 tenir le discours qu'a tenu Marcin Bulka.
C'est clair.
Je pense qu'il y en a certains dans le vestiaire qui doivent être insupportables. Je sais pas, moi, c'est ce que je comprends.
Non, mais, rappelez-vous quand même que ce vestiaire-là, il a des problèmes depuis un petit moment quand même.
Pas d'aujourd'hui.
Sportif, extra-sportif, mais on sait que ça a l'air d'être compliqué. Et d'autant plus compliqué, n'oublions jamais qu'à Nice, il fait bon vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il commence à faire beau, que tu commences à être loin de tes objectifs et que tu commences à aller faire des petits tours.
Tu bois le café avec un amarcha.
Voilà,
terrasse,
par exemple, et tout. Et c'est compliqué, il faut avoir attention. Hein. Donc ça peut vite repartir en sucette. Hein.